radio-imo.fr.
L'invité d'Ingrid Napi-Choulet, professeur titulaire de la chaire immobilier et développement durable à l'ESSEC Business School.
Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'inviter aujourd'hui Hugues Parent, directeur général de l'EPADESA, qui est l'organisme public d'aménagement et de développement de la Défense, qui est un établissement public de l'État et qui gère une opération d'intérêt national de plus de 560 hectares, tout près de Paris, à 10 minutes de l'Étoile. Alors, rappelons tout d'abord à nos auditeurs quelques chiffres clés du quartier d'affaires de la Défense, qui est un des territoires que vous gérez. C'est le plus grand quartier d'affaires européen avec 3,5 millions de mètres carrés de bureaux, 400 entreprises, dont 68% ont leurs sièges sociaux, 160 000 à 170 000 salariés, et puis de nombreux projets de tours avec des noms comme Trinity, 50 000 mètres carrés, Sister, 75 000, Éclat, 76 000, Alto, 51 000 mètres carrés. On construit beaucoup à la Défense. Alors, tous ces chiffres sont... on retrouve tous ces chiffres sur le site epadesa.fr. J'ai le plaisir de vous rencontrer aujourd'hui parce que vous venez de publier la version finale du rapport La Défense Seine-Arche Stratégie 2025, qu'on retrouve également sur le site internet de l'EPADESA. Et vous avez clairement l'objectif d'inscrire ce quartier historique dans une transition écologique et énergétique, et voire même numérique. Alors, ma première question, Monsieur Hugues Parent, on a beaucoup parlé en tout cas, de la Défense, dans des termes souvent assez critiques, il y a quelques temps, en évoquant un chiffre de 13% de vacances, une perte d'attractivité, des tours vides. On voit qu'il y a des projets à nouveau qui se construisent. Comment vous expliquez cet état ?
Bonjour. Bon, écoutez, d'abord, vous avez eu la gentillesse d'indiquer que nous avions exprimé une stratégie. Elle n'existait pas auparavant. Il n'y avait aucune stratégie pour une raison très simple. D'ailleurs, c'est que ces images que vous venez d'indiquer, qui sont réelles, étaient des images parfois négatives, que personne n'avait envie d'exhumer ces images. Et je crois que dans ce document stratégique, le premier courage que nous avons eu, qui jusqu'à maintenant n'avait pas été, semble-t-il, à l'ordre du jour, c'était d'abord de faire un constat. Et ce constat que vous venez de faire, c'est-à-dire un quartier très identifié, visible de partout dans la région parisienne, visible internationalement surtout, ce quartier également très minéral, parfois souffrant de mono-vocation, au sens où on y trouve pratiquement que des bureaux en grande hauteur. Tout ceci dans un ensemble, enfin les Français n'aiment pas la grande hauteur, on le sait, c'est la raison pour laquelle ils ont protégé Paris jusqu'à aujourd'hui, alors que l'ensemble des grandes métropoles ont des quartiers comme ceux de la Défense à l'intérieur des villes. Mm-hmm. Tout ceci faisait que la relation à la Défense a toujours été compliquée. Donc nous avons fait ce constat. Ce constat nous a amené à la fois à traiter l'existant sur la plateforme dite historique et surtout à nous dire que nous ne pourrions pas construire un avenir pour la Défense si nous ne dépassions pas cette plateforme. C'est tout l'enjeu de ce rapport stratégique qui fait de l'arrière-défense, qui sera peut-être demain l'avant-défense, au-delà de l'arche de la Défense, les projets nouveaux dont j'aurai peut-être l'occasion de vous parler. Alors, sur la question très précise que vous posez concernant la vacance. En fait, la vacance telle que... Moi, je suis arrivé il y a 3 ans dans un état de désespérance absolue, 14%, même pas 13%, 14% de vacances en 2013-2014, avec des idées, les médias, mais aussi, je pense, profondément, les investisseurs, les promoteurs pensaient que la Défense avait quelque chose de malade et que, par conséquent, la situation était mauvaise. En réalité, cette vacance a été provoquée, artificiellement. En 2007-2008, les autorités publiques se sont emparées du sujet en constatant que la Défense était en perte de vitesse. Et elle était en perte de vitesse pour une raison qui existe encore, c'est-à-dire l'obsolescence d'un quartier qui est né il y a 60 ans. Mmh. Il faut se souvenir quand même que Canary Wharf, par exemple, qui est assez comparable en évolution par rapport à la Défense, mais même le quartier financier de Francfort, sont nés 20 ou 30 ans après la Défense. Pourquoi la Défense a été construite à l'ouest de Paris ? Pour la raison que je vous ai indiquée tout à l'heure, on ne pouvait pas construire un quartier de tours de grande dimension à l'intérieur de Paris. Donc on l'a déporté sur le côté. Mais aucune ville n'a fait ce choix-là ailleurs. Et par conséquent, nous avons eu 30 ans d'avance. Et parce qu'on a 30 ans d'avance, nos tours ont évidemment une obsolescence beaucoup plus avancée que celle des autres quartiers. Mmh. Donc les autorités publiques, celles de l'État notamment, ont pris la décision de lancer un grand plan de renouveau. Environ 450 à 500 000 mètres carrés en proposition de rénovation. Mmh. Ça a donné la tour Feur, ça a donné un certain nombre de très belles réalisations. Carpe Diem aussi est une tour rénovée. Mais pour autant, ça a jeté sur le marché en 2 ans près de 400 000 mètres carrés. Quand vous avez 3,5 millions déjà installés de mètres carrés et que vous lancez 400 000, ou quand vous avez 3,1 millions et vous lancez 400 000, ça fait pratiquement 12 ou 13% de supplément d'offres en 2 ans. Donc mécaniquement, le marché s'est trouvé déstabilisé par ce taux de vacances qui est devenu important en 1 an et demi, 2 ans, puisqu'en 2012, il était à peu près de 8,5-9%. Évidemment, les valeurs économiques, non pas les valeurs faciales, mais les valeurs économiques, comme elles se pratiquent dans l'immobilier avec les offres qui sont faites de gratuité sur des mois de loyer, ont évidemment plongé d'environ 20%. Et à la fin 2014, on constatait à la fois une vacance de 13,5%, mais en même temps une chute des loyers de 19-20% qui était la conséquence directe de cette vacance. Les choses ont complètement changé aujourd'hui. D'abord, nous n'avons pratiquement pas eu de livraison depuis 2014 et nous n'en aurons pratiquement aucune jusqu'en 2018-19. Ça, les investisseurs, notamment internationaux, l'ont bien remarqué, le savent et ont pris des décisions d'investissement.
Ils réinvestissent d'ailleurs.
Absolument. Donc, ils ont pris des décisions d'investissement qui sont les fameuses tours dont vous avez parlé en construction. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, la question à laquelle nous sommes confrontés, ce n'est pas le taux de vacances qui, selon Immostat, est tombé à 8,4% au premier trimestre 2016. Nous nous tablons plutôt sur autour de 9% parce que cette vacance peut bouger un tout petit peu selon les mois. Mais le vrai problème auquel nous sommes confrontés, puisque nous sommes spécialisés dans l'accueil des grandes machines économiques internationales ou CAC 40, c'est de livrer aujourd'hui des surfaces importantes à des entreprises qui les chercheraient. Il n'y a plus aujourd'hui sur la Défense, et pour jusqu'à l'an prochain en tout cas, une seule surface supérieure à 20 000 m². Il n'y en a plus qu'une seule. Et l'an prochain, il y aura une nouvelle que tout le monde a déjà regardée et qui, à mon avis, va être louée avant d'être libérée. Ça veut dire que jusqu'en 2018-19, nous allons continuer à assister à une baisse du taux de vacances. Nous avions des prévisions d'environ 9% en 2018. On va certainement tomber très en dessous, puisque nous sommes déjà en dessous. Et donc, n'ayant pas de livraison jusqu'en 2018-19, nous allons tomber en dessous des 7%.
Mécaniquement
en dessous des 7%. Nous pensons que les valeurs économiques vont commencer à remonter à partir de l'an prochain. Et en fait, la deuxième vague de fournitures, de production nouvelle, interviendra vraiment en 2019, 2020, 2021. Tout l'enjeu pour nous, il est de ne pas reconnaître ce que nous avons déjà connu en 2013-2014. Donc il faut rendre la Défense attractive, notamment des entreprises qui n'y sont pas.
D'accord. Alors ça me permet de passer à mon autre question. Mais quand vous dites que donc, la vacance diminue, que les transactions locatives augmentent à nouveau, il y a un retour donc, des entreprises, des grands groupes apparemment, à la Défense, pour quelles raisons en quelques instants?
Les grands groupes y restent. On a beaucoup parlé des CFR partant en 2013 vers un campus en Seine-Saint-Denis pour des raisons qui sont explicables. On a très peu parlé du maintien in extremis d'Engie sur 90 000 m² à la Défense, alors qu'ils devaient eux aussi partir vers un campus. Ils avaient déjà d'ailleurs acheté le terrain et signé le permis. Donc, ça veut dire que les grandes entreprises y restent. Le problème aujourd'hui, c'est que les grandes entreprises qui ne sont pas à la Défense auront beaucoup de mal à y arriver avant 2019-2020, car les grandes surfaces n'existent plus. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons un nombre qui a été multiplié par 2 en 2015, qui est multiplié par 2 selon nos premiers constats 2016, d'entreprises qui viennent occuper ce qu'on peut appeler des espaces interstitiels, puisqu'il n'y a plus une grande surface. Il faut bien expliquer ces 9% de vacances. Ces 9% de vacances sont liées à des petites surfaces de 2000 à 6000 m² environ.
D'accord.
Et ça, ce n'est accessible qu'à des entreprises beaucoup plus modestes, qui n'existaient pas à la Défense et qui en ce moment arrivent assez massivement et qui profitent du fait que parce que c'est interstitiel, les gestionnaires d'actifs sont prêts à les louer à des tarifs qui leur permettent au moins de remplir. Ils savent très bien qu'ils n'auront pas un grand compte, donc ils vont le louer à des entreprises qui arrivent. Pour nous, c'est très intéressant parce que les entreprises qui arrivent, on le sait, pour 70% d'entre elles, statistiquement, vont faire un parcours résidentiel sur la Défense ou autour de la Défense. C'est la raison pour laquelle on prépare aussi la deuxième partie du projet sur les constructions derrière l'Arche, parce qu'on est persuadé que celles qui ne resteront pas sur la Défense trouveront derrière l'Arche, dans les nouveaux quartiers des Grous ou de cœur de quartier, de quoi investir la proximité de la Défense dans lesquelles leurs salariés auront déjà toutes leurs habitudes, parce que c'est ça le fond du problème. Mmh. C'est continuer à conserver des salariés qui sont à haute valeur ajoutée et attirer des salariés qu'on voudrait aller chercher et qui sont, vous le savez, internationalement mobiles.
Ça fait écho à mes deux questions suivantes, notamment l'image assez négative qu'a le quartier auprès des jeunes, qui parfois ne le connaissent pas, voire pas du tout, et l'image aussi qu'on a d'un quartier essentiellement de bureaux monofonctionnels où il n'y a pas de logement, alors qu'en fait il y a autant de logements que de bureaux. Alors pour venir d'abord à ma deuxième question, c'est vrai qu'à l'occasion de plusieurs enquêtes que nous avons menées, Mon Bureau Demain ou Ma Ville de Demain, auprès des jeunes et notamment la population des étudiants, on s'aperçoit que très peu souhaitent en fait travailler, que ce soit dans des tours de bureaux ou que ce soit dans des quartiers d'affaires périphériques, et qu'il y a un très net retour vers le centre-ville et vers l'envie de travailler. On le voit d'ailleurs dans Paris intramuros, dans les centres-villes des grandes métropoles, dans des quartiers où on a toutes les fonctions de vie. Et puis on voit également une attractivité pour des métiers nouveaux liés à l'économie de l'innovation, l'économie numérique, voire à l'émergence de quartiers numériques. Comment la Défense, aujourd'hui, par rapport à la compétitivité des territoires, s'ancre-t-elle ?
D'abord, c'est un territoire extraordinairement connoté, identifié, et donc par conséquent, que l'on ait des représentations dessus, c'est normal. À cela, nous répondons plusieurs choses. D'une part, la Défense n'est pas exclusivement constituée de bureaux, puisqu'il y a près de 25 000 personnes qui vivent sur la plateforme historique. Deuxièmement, tous les efforts que nous produisons aujourd'hui sont destinés à ouvrir cette plateforme sur l'environnement urbain, et on ne peut pas dire que Courbevoie, Puteaux, Neuilly ou Nanterre ou la Garenne-Colombe soient des no man's land absolus. Et on y trouve absolument tout ce que des villes, d'ailleurs très recherchées, peuvent apporter. Troisièmement, nous construisons un avenir plus diversifié au-delà de l'Arche, puisque par exemple, aujourd'hui, nous lançons l'appel à manifestation d'intérêt pour le quartier des Groux. Ça sera quand même 5000 logements à 400 mètres de l'Arche, 5000. D'accord. 5000 logements à construire. Ce que nous construisons sur cœur de quartier, qui est un peu plus loin, une station de métro, c'est quand même plus de 1000 logements. Donc ça veut dire, et des commerces qui vont avec. Par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est moins la tour qui fait peur que la manière d'y travailler. C'est cela, je crois, que les jeunes ne supportent pas. Ils veulent à la fois de l'animation urbaine, et ils veulent une manière de travailler différemment. La Défense, telle qu'elle est aujourd'hui, n'offre ni l'un ni l'autre. En revanche, elle offre quelque chose d'absolument irremplaçable dans les centralités de demain pour les jeunes. On le sait, les jeunes vont effectivement dans des endroits animés, mais ils vont aussi dans des endroits hyper connectés. Et aujourd'hui, les centralités, non pas la centralité, est en train de se construire. Vous voyez, toutes les villes, les grandes métropoles mondiales se construisent en polycentralités. Ces polycentralités sont organisées par les transports. Nous aurons, à échéance 5 ou 10 ans, les plus grandes capacités de transport existant dans la région francilienne sur un rayon d'un kilomètre. Donc tout ceci entre ce que nous produisons en diversification, dans la connexion qui existe avec les
avec des territoires numériques proprement parlés, avec des Fab Labs, des lieux d'innovation.
Alors ça, nous le construisons de zéro, si je veux dire en blanc pratiquement, dans les nouveaux développements sur le quartier des Groux, qui sera la plus grosse opération d'aménagement de la région parisienne dans les années à venir. Ça démarre aujourd'hui. Mais nous le construisons petit à petit aussi sur la Défense, parce qu'on voit bien que, par exemple, lorsque des open space sont en train de s'ouvrir dans l'immeuble le plus emblématique de la Défense, à savoir Cœur Défense, il est en train de se passer quelque chose dans la manière de travailler. Ce que vous dites, les Fab Labs ou les open space ou les espaces connectés, ce n'est ni plus ni moins que ce qu'on met à l'intérieur de l'enveloppe. Et l'enveloppe peut être un immeuble.
D'accord. Il reste même pas une minute de conclusion. Quel est le message fort que vous aimeriez apporter à nos auditeurs ?
Je pense que c'est à la Défense et dans ce qu'on est en train de forger dans ce grand territoire tertiaire qui s'appelle Défense Seine-Arche que nous sommes en train de forger une partie non négligeable de l'attractivité internationale du Grand Paris de demain. Il faut regarder l'évolution de ce quartier. Il faut peut-être que les images se cassent et elles reposent souvent sur des réalités qu'il faut transformer. Mais l'accélération de ces transformations est en cours et moi j'ai une confiance absolue pour la décennie qui vient sur la place de la Défense et notamment sa place dans les images que véhiculeront demain le Grand Quartier, à la fois une ville à vivre mais aussi une métropole mondiale.
Je vous remercie Hugues Parent. Je rappelle à nos auditeurs que le rapport se retrouve sur le site epadesa.fr ainsi que d'ailleurs votre interview que vous nous aviez consacrée dans notre cahier La ville et le numérique que l'on retrouve également sur le site internet cahier-imo.essec.edu et je retrouverai mes auditeurs très prochainement. Au revoir.
Radio-imo.fr. L'invité d'Ingrid Napichoulet, professeur titulaire de la chaire immobilier et développement durable à l'ESSEC Business School.